suis un simple praticien des aspects en entreprise qui s'est ramassé depuis 3 ans et demi à la tête du conseil du patronat. Mais ça me donne la chance d'avoir expérimenté dans ma vie toutes sortes de choses et je vais partager ça avec vous. C'est plutôt des exemples. Le premier élément, quand j'ai été invité à participer à ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme expérience dans ma vie professionnelle au sein d'une organisation qui m'a amené à vivre ces choses-là? Donc, j'ai réfléchi et une entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, j'étais responsable de la responsabilité sociale, qui a changé de nom, c'est appelé maintenant développement durable. Ça, je veux faire une petite note en partant. Parce que responsabilité sociale, ça a été galvaudé aussi énormément. Parce que responsabilité sociale, et j'ai été en mesure de développer, de mettre en place à Gardeur du Canada une démarche pour une grande entreprise, où essentiellement, la démarche de l'entreprise, c'était d'écouter les différentes parties prenantes, les stakeholders, comme on dit en anglais, d'écouter leurs préoccupations par rapport à l'entreprise et de revenir auprès des parties prenantes en disant, bien, voici... On a écouté, voici ce qu'on a entendu, on vous le répète, c'est ça qu'on a entendu. Voici nos engagements par rapport aux enjeux que vous nous avez donnés. Et on met ça dans un rapport, puis on va se mesurer après une période de temps pour dire, voici, vous nous aviez dit telle chose, on s'est engagé à faire telle chose, où est-ce qu'on en est rendu avec un rapport d'étape, puis à la fin, les résultats. Et malheureusement, quand vous discutez de ça au sein d'une organisation commerciale, une entreprise, à un moment donné, les gens posent la question, mais est-ce que tous les enjeux qui sont là sont pertinents? Est-ce que ce sont des enjeux matériels pour l'organisation? Alors, la responsabilité sociale qui a été un peu utilisée, je vous le dis très honnêtement, d'abord d'une façon extrêmement ouverte et volontaire dans plusieurs organisations, c'est devenu plus un champ de relations publiques. Et la notion de développement durable m'apparaît beaucoup plus pertinente. Parce que, dans le fond, ça inclut la responsabilité sociale. Puis le développement durable, essentiellement, pour moi, ça voulait dire que la responsabilité sociale n'a pas une fin en soi que d'avoir un dialogue et de s'entendre sur les enjeux que les gens... Mais il faut que les enjeux soient matériels pour l'organisation, sinon c'est seulement un exercice de relations publiques. Alors, c'est là où est-ce que c'est intéressant. Et comme vous le savez, le développement durable porte sur les 3 piliers, l'environnement. On ne touche pas nécessairement à ça ici, parce qu'on discute de choses qui ont très plus... aux relations de travail, conditions de travail, les accords commerciaux. Mais les 2 autres éléments sont extrêmement importants, c'est-à-dire le social et l'économique. Alors, un des problèmes que beaucoup d'entreprises vivent quand on parle de développement durable, c'est que dans tout le langage, les discussions, on parle beaucoup soit de l'aspect social, soit de l'aspect environnemental, et l'aspect économique, c'est comme secondaire. Évidemment, ce qui préoccupe les entreprises aussi beaucoup, c'est l'aspect aussi économique. Mais l'économique ne peut pas fonctionner sans les 2 autres piliers. Donc, c'est important de bien comprendre les enjeux des parties prenantes sur l'aspect social, sur l'aspect environnemental, et pour l'entreprise, de bien comprendre l'impact que ça a au plan économique pour elle, et aussi de communiquer, de dialoguer avec ses parties prenantes des impacts que ça a. En fait, je vais faire une analogie avec ce qui s'est passé dans l'industrie du papier au Québec. Alors, il s'est passé une situation difficile, et les patrons et les travailleurs ont dû s'installer ensemble puis discuter... Bien, voici les enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver quoi, puis malheureusement, ça va nous coûter quoi, puis etc., etc. Mais on s'est entendu dans plusieurs endroits. Dans d'autres, on ne s'est pas nécessairement entendu, mais je vous dirais qu'il y a des endroits. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, dans son essence, une entreprise, si elle veut être durable, si elle veut faire des affaires de façon durable, elle n'a pas le choix que d'écouter les préoccupations des employés, des communautés, des différentes parties prenantes, des gouvernements, et d'essayer de voir, si elle veut être durable, comment est-ce qu'elle met ça dans son plan d'affaires. Parce que l'organisation, ultimement, n'est pas là juste pour les beaux yeux de tout le monde. Elle est là pour prospérer, pour générer des revenus, générer des profits qui seront redistribués au niveau de différents moyens. Mais à la fin, l'entreprise, par son existence, si elle veut être durable, il faut aussi qu'elle soit en mesure d'intégrer dans son plan d'affaires ses préoccupations-là. Ça peut être la question... des gestions, des relations avec les travailleurs, etc. Qu'on soit dans un milieu syndical ou non, c'est la même chose. Il faut s'occuper beaucoup. Or, on est dans un contexte au Québec de vieillissement démographique où, en plus de ça, la notion d'avoir accès à une main-d'œuvre de qualité devient de plus en plus importante. Donc, il faut être en mesure de regarder qu'est-ce qu'ils veulent nos employés aussi. Puis, en passant, les employés, surtout les plus jeunes, c'est important la réputation. C'est important aussi. Alors, Donc, les entreprises sont de plus en plus sensibles à ces choses-là. Non seulement pour le consommateur, mais aussi pour attirer les employés. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça date plutôt local. Là, j'ai pensé à l'organisation où je travaillais, où on a mis ça en place au Canada. On a vraiment fait un travail énorme. Et là, on m'a demandé d'aller aider, parce que c'est une multinationale qui a des entreprises dans tous les pays, des manufactures dans tous les, dans tous les pays, puis des organismes de distribution dans tous les pays. Alors, j'ai commencé à aller dans les différents continents pour conseiller les différentes équipes locales comment on pouvait mettre en marche une démarche réelle. Puis après ça, j'ai été travailler en Europe pour travailler au plan de l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest pour mettre ça en place de façon plus précise dans tous les pays d'Europe. Mais ça, c'est juste de la responsabilité sociale puis du développement durable. Quand on rentre dans les sujets que vous abordez, c'est intéressant. Mais là, la même entreprise, un jour, dit, si je veux être en mesure de concurrencer mes concurrents, il faut que je sois en mesure d'être plus efficace et de diminuer mes coûts d'opération. Alors, il y a beaucoup de réorganisation qui s'est faite pendant des années au Canada. On est arrivé à un moment donné, puis on a fermé des usines, puis on a fermé des usines, puis concentré, puis plus d'efficacité. On était rendu très efficace. Mais en même temps, on n'était plus concurrentiel pareil, parce que la concurrence avait d'autres façons de procéder. Alors là, on a regardé l'accord du libre-échange. On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il se passe que le Mexique à côté, là, c'est pas loin, en train ou même par bateau, la marchandise, ça se transporte pas mal. Les gens ont dit, on va discuter de ça avec nos syndicats, avec nos travailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et malheureusement, le groupe d'âge des employés était rendu plus près de la retraite que des jeunes travailleurs. Puis, ce qui les intéressait, c'était davantage la retraite, la sécurité pour la retraite, que le futur de l'entreprise. Dans les négociations, on n'a pas réussi, il n'a pas réussi à avoir une entente pour trouver un modus vivendi. Donc, l'entreprise a dit, bien, écoutez, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on transfère nos opérations au Mexique. Alors, construit une nouvelle usine au Mexique. Là où c'est intéressant, c'est que, quand je dis intéressant, c'est plate. Ce que je veux dire, c'est ce qui est particulier, c'est que dans la décision, il a fallu prendre en compte justement toutes sortes de clauses pour savoir est-ce qu'on est conforme quand même, par exemple, au contenu canadien, les intrants, etc. C'est tous des éléments importants. Mais dans la décision de l'entreprise, c'était clair que si on déménageait les choses au Mexique, il ne fallait pas que ce soit pour exploiter du cheap labor qu'on était. Alors, il faut savoir que l'entreprise qui s'est établie au Mexique à ce moment-là, c'était l'entreprise qui offrait les meilleures conditions de travail. C'est dans la région de Monterrey, au Mexique, c'est pas la région la plus pauvre du Mexique. Et le syndicat, c'est une entreprise syndiquée, donc il y avait les employés pouvaient se défendre. C'était les meilleures conditions de travail, et en plus de ça, l'employeur local avec qui on faisait affaire était réputé comme étant le meilleur employeur au Mexique dans sa business. Donc pour nous autres, ça a été comme un peu de dire, écoutez, si on le fait, il faut quand même le faire d'une façon responsable. C'est pas tout de déménager des choses. Il faut que ce soit fait, mais que ce soit. Et l'intérêt là-dedans, qu'on oublie tout le temps dans ces choses-là, c'est qu'au Mexique, ça a créé des jobs aussi. Alors, quelque part, quand on parle des pays plus pauvres, etc., quand il y a de la job qui se crée, c'est aussi des revenus pour les gens là-bas qui sont intéressants. Mais pour le Canada, c'était une perte. Moi, je me souviens très bien d'avoir été rencontré le président du syndicat, puis on s'est serré la main, puis on était émus parce que c'est tous des gens avec qui on travaillait. Et ça ne règle pas le problème. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'effectivement, quand il y a des clauses sociales, c'est une chose, mais à la fin, c'est toujours la question de la responsabilité sociale et du développement durable qui tient en compte l'entreprise. Puis si la clientèle de l'entreprise n'aurait pas accepté ça, si les employés auraient été maltraités au Mexique, ça n'aurait pas pu se faire. Je vais plus loin. Cette même entreprise-là a des installations à travers le monde. Et il y a des ententes avec les groupes syndicaux mondiaux et l'entreprise pour s'assurer qu'il y a des normes minimales de santé, sécurité, de ci, de ça, qui soient établies à la grandeur de la planète. Mais vous savez, dans tout ça, le problème, ce n'est pas quand on s'entend avec des pays comme, par exemple, le Canada, l'Europe, puis je vais arriver à ça maintenant, c'est quand on arrive dans des pays où les conditions et les normes ne sont pas les mêmes. Alors, si je prends le Mexique, qui est quand même en Amérique du Nord, qui n'est pas si loin que ça, l'écart est considérable, puis là, je vous le dis en partant, là, le coût du salarié, même si ce n'est pas le chiffre d'erreur, c'est 7 fois moins qu'ici. C'est sûr que dans une entreprise, quand elle regarde ses chiffres, elle dit, écoutez, ça coûte 7 fois moins, puis c'est une entreprise qui coûte beaucoup moins cher, puis c'est de la main d'œuvre qualifiée, c'est sûr que ça touche énormément. Donc, c'est une considération qu'ils ne peuvent pas oublier. Mais, je vais arriver à l'accord de libre-échange, pas libre-échange, mais maintenant l'accord avec l'Europe. Ce ne sera pas la même affaire. Puis on l'a vécu avec l'accord avec la France. On l'a vécu avec l'Europe. Là, on parle d'organisations très développées, très structurées. On parle d'un environnement avec des programmes sociaux, probablement, dans certains cas, plus généreux, même ici. Alors, la dynamique va être très différente. Les préoccupations sont moins importantes, peut-être, de ce côté-là. Là où il va falloir se poser la question, c'est quand on initie après ça des négociations avec la Chine. Puis le problème, c'est pas que les Chinois ne peuvent pas s'entendre avec vous et moi, mais c'est que la signification des mots n'est pas nécessairement la même chose entre les gens. Là, je vais vous raconter une histoire affreuse. Mais je vais vous la raconter parce que c'est la réalité. Je n'ai pas de cachette à faire. Un chef d'entreprise m'explique qu'un jour, il est dans un séminaire mondial des grands leaders. Puis il y a un programme de formation. À ce programme-là, il y a une discussion sur l'éthique et la philosophie et les mœurs. Le cas qui leur est présenté, c'est il y a un individu, vous êtes en automobile, il y a un individu qui traverse la rue, il se fait frapper, vous êtes témoin. Il se trouve que la personne qui était dans l'automobile, qui est conducteur, c'est un de vos amis. Est-ce que vous allez faire la délation? Ou est-ce que vous direz rien? Les Nord-Américains, Européens, Canadiens disaient, ben écoutez, j'ai une responsabilité, j'ai un devoir moral, oui, je vais avouer que la personne, etc. D'autres communautés, entre autres dans ce cas-là, il y avait un Malaisien qui dit non, je ne peux pas, agir de cette façon-là. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est mon ami. Okay, mais c'est ton ami, mais tu as un sens de devoir. Oui, mais l'amitié pour nous, c'est une valeur plus importante que tout. Alors, la réaction des Européens, des Nord-Américains, c'est de dire hey, ça ne s'applique pas de la même façon. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Quand on va négocier un accord avec la Chine ou avec des pays asiatiques, on est aux prises avec cette dimension-là. C'est pas que les gens n'ont pas des valeurs, c'est que la signification des choses, c'est pas la même chose. Alors, vous avez beau avoir un accord, à la fin, si vous n'êtes pas en mesure de bien interpréter en fonction de la valeur de chacun, ça ne voudra pas dire la même chose les uns ou les autres. Je vais vous ramener sur cette personne-là qui, un jour, est dans un besoin d'affaires, veut investir dans les pays de l'Est, a besoin d'un investissement de capital important, a besoin de 50 millions de dollars. Puis à un moment donné, il dit, écoute, à son chef financier, on va appeler mon chum en Malaisie. Il dit, peut-être qu'il pourrait me gérer des financières, qu'il l'appelle. Et puis là, il dit, OK, c'est une bonne affaire? Il dit, oui. Et il dit, je peux te faire confiance? Il dit, oui. Ben, il dit, OK. Ferme la ligne. Un mois plus tard, il appelle son gars finance, puis il dit, écoute, il faudrait peut-être maintenant envoyer un contrat, faire venir les avocats, tout ça, pour lui envoyer ça. Son chef des finances, il dit, on ne peut pas. Pourquoi? Ben, il dit, il nous a envoyé son chèque de 50 millions. Tu vois ça? Fait qu'il rappelle son chum en Malaisie, puis il dit, ça, écoute, on n'a pas. Écoute, t'es mon ami. Tu m'as dit que je peux te faire confiance. Je t'ai envoyé 50 millions. Si t'es mon ami, tu ne le feras pas. Mais. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les situations humaines sont différentes, les valeurs sont différentes. On a beau mettre ça dans toutes sortes d'accords. À la fin, il faut comprendre ces différences-là et ces dimensions-là. Puis à un moment donné, ce que veut dire une chose peut avoir de l'air épouvantable, c'est le démon. Puis en même temps, d'un autre côté, ça peut être très différent. Alors, si je vous raconte ça, c'est qu'à la fin, on a beau avoir des accords, c'est la réalité des relations entre les individus. La question des clauses sociales, du côté patronal, moi, je pense que c'est une excellente chose. Maintenant, ça dépend comment on l'interprète, comment on l'applique. Il faut que ça reste une certaine marge de manœuvre et une certaine flexibilité. Dans la dernière négociation qu'il y a avec l'Europe actuellement, le milieu syndical a demandé d'avoir plus de transparence et le milieu communautaire aussi, de plus de transparence, et il y en a eu. Juste le fait là, d'être mis à jour régulièrement sur ce qui se passe dans les discussions, c'est très différent que quand on ne sait pas ce qui se passe, puis que là, on apprend qu'il y a un accord qui est signé, qu'on n'a pas été partie prenante, qu'on n'a pas eu la possibilité d'en discuter, etc. Donc, pour moi, les clauses sociales, c'est important, mais en même temps, il ne faut pas penser que ça va régler. Comme vous avez dit tantôt, ça prend des dents. Dites-vous une chose, il n'y en aura jamais des dents suffisamment, parce qu'à un moment donné, c'est comme un peu... Il y, y a déjà des structures bureaucratiques dans plusieurs États pour administrer plein de choses. Les gens ne s'en remettront pas par-dessus. Puis on voit ce qui se passe en Europe, c'est déjà assez compliqué, merci, avec la communauté européenne et les pays européens. Les ententes cadres internationaux, les accords cadres internationaux entre les syndicats et les grandes multinationales, je pense que ça fait du sens. Juste pour une raison en particulier. C'est que si vous êtes un employeur, vous devez vous donner, ce que j'ai dit tantôt, un set de valeurs, un paquet de valeurs que vous devez partager avec l'ensemble de vos organisations. Et si vous y croyez, ces valeurs-là, il faut que vous, c'est les bottines, suivez les babines, il faut que vous les mettiez en application. À mon avis, c'est possible de le démontrer dans certains accords cadres internationaux. Est-ce que c'est faisable partout? Pas nécessairement. Est-ce qu'il y a un bénéfice pour les employeurs? Parfois oui, parfois non. Est-ce qu'il y a un bénéfice pour les syndicats? Parfois oui, parfois non. Il n'y a pas de vérité dans tout ça. Mais à la fin, je vais revenir à la responsabilité sociale pour le développement durable. Nonobstant les clauses sociales, nonobstant les accords cadres internationaux, à la fin, le seul vrai développement durable pour une entreprise, c'est d'être sûr de bien comprendre et bien évaluer les enjeux, les parties prenantes, puis de s'assurer que c'est dans son plan d'affaires. Parce que s'il ne le fait pas, l'entreprise va vivre le temps des roses. Mais il y a un point que vous avez dit au tout début qui est important, et je termine là-dessus. Au Canada, il ne faut pas se nier. Là. Les normes du travail sont quand même maintenant, c'est pas la panacée. Le salaire minimum, là, on ne vit pas riche avec ça. Et juste pour vous donner un exemple, le monde patronal, là, on n'est pas fou non plus. Moi, ça fait 3 années que je suis au conseil du patronat. Ça fait 3 années que je disais chaque fois qu'il y a une augmentation du salaire minimum que c'est raisonnable, que c'est correct. On n'est pas dans l'habitude là, de dire non, pushback, là, on n'est pas là. Là. Pourquoi? C'est pas déjà beaucoup le salaire minimum. Au moins protégeons, s'il vous plaît, la capacité des gens dans le cadre qu'il y a une inflation, puis qu'il faut arriver quand même à un certain niveau de salaire. Donc le monde patronal n'est pas idiot non plus. Puis en matière de santé, sécurité du travail, on a des débats avec les syndicats à un moment donné sur les processus et les moyens. Mais ultimement, si la première préoccupation des employeurs, puis c'est le cas au Québec, c'est d'avoir accès à une main-d'œuvre de qualité disponible. Bien, la meilleure main-d'œuvre que tu as de qualité disponible, c'est celle que tu as déjà. Fait que faut t'investir dans la prévention si tu ne veux pas qu'elle disparaisse en maladie, en décès, en accident, quoi que ce soit. Alors, les employeurs ne sont pas fous. Maintenant, est-ce que tous les employeurs ont les capacités de gérer tout ça, ont tous eu les connaissances, ont tous eu les services, conseils, les experts, etc.? C'est pas vrai. La petite, la moyenne entreprise n'a pas accès à ça. La grande, la très grande entreprise, là. C'est pour ça que ISO, c'est important, puis c'est pour ça que des choses comme ça sont importantes. Parce que ces entreprises-là doivent aussi les répercuter chez leurs fournisseurs. Ça aussi, c'est important. La vraie approche de responsabilité sociale, c'est pas juste pour l'entreprise, c'est quand tu obliges aussi tous tes partenaires de faire dans ta partie. Et ça, c'est intéressant, les ISO, etc. Alors, j'arrête parce que j'entends les bruits sonner. Je pourrais vous parler, pas de façon aussi détaillée que les autres sur les accords internationaux, mais c'est ma petite expérience.